Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'homme et l'art, c'est le thème ou presque d'une prochaine session qui doit se tenir à l'Institut catholique de Toulouse. Depuis quand l'homme fait-il de l'art? Qu'est-ce qui fait de l'art une activité proprement humaine? Quelle différence entre l'artisan et l'artiste? Telles sont les questions que soulève cette session art et cinéma, art et sculpture, art et musique. Une session qui s'annonce riche et donnera la parole à plusieurs artistes. L'occasion de s'interroger ensemble sur l'origine et les caractéristiques de cette activité de l'homme qui nous enchante tout autant qu'elle nous fascine. L'homme créateur d'art, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, qui reprend donc le titre d'une prochaine session, session de l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, pour ceux qui ne connaissent pas, de l'Institut catholique de Toulouse. Ça sera le 16 et 17 mai prochain, et autour du plateau pour nous en parler, honneur aux dames, Pascale Casales, vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Toulouse et directrice du pôle culturel de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, avancez-vous bien près du micro, s'il vous plaît. Jean-Michel Maldamé, vous êtes prêtre religieux dominicain, théologien et membre honoraire de l'Académie pontificale des sciences. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Michel Poirier, prêtre bibliste, maître de conférence à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comme vous êtes le grand organisateur de cette session, Jean-Michel Poirier, on va commencer avec vous. si vous deviez, en quelques phrases, nous dire le pourquoi de cette session et l'intention de cette session, que diriez-vous aux auditeurs?
Cette session, elle a jailli d'une conversation avec Pascale Casales. Parce que on conversait un jour sur finalement pourquoi les artistes créent et qu'est-ce qui les fait créer, quelle est leur motivation. Il y a quelque chose de très mystérieux. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui jaillit en eux? D'où est-ce que cela jaillit? Voilà. Et c'est vrai qu'à la réflexion, l'homme ne fabrique pas que de l'utilitaire ou de ce qui est nécessaire pour vivre, la culture, l'agriculture, plutôt l'agriculture et la technique, mais il produit aussi des choses qui apparemment peuvent paraître inutiles ou ornementales. Et pourtant, nous ressentons tous le besoin que nous avons de beauté, que nous avons pour vivre d'éléments qui sont, vous voyez, qui sont pas immédiatement utiles, mais qui donnent du sens. Et qui ouvre des perspectives. Voilà, donc c'est ce filon-là que nous avons envie de creuser au cours de cette session, en finalement nous demandant qu'est-ce que la création artistique nous dit finalement de l'homme. Et je crois que c'est plus que jamais essentiel aujourd'hui, dans notre culture et dans nos civilisations.
On va en parler, d'où peut-être mon lapsus pôle culturel de l'Institut catholique de Toulouse, parce que l'art a évidemment une dimension transcendantale. Alors on va commencer avec Jean-Michel Maldamé, vous allez intervenir donc sur le thème de l'art pariétal, c'est, si je ne me trompe pas, le 16 mai, je le dis aussi, donc il y aura Monseigneur Legal, donc archevêque de Toulouse, qui interviendra ce 16 mai sur le thème « Les artistes et l'Église hier et aujourd'hui », Monseigneur Legal qui accompagne ce groupe d'artistes, voilà que le nom m'échappe, la diaconie de la beauté pour Toulouse et j'imagine un peu plus largement. Alors Jean-Michel Maldamé, l'art pariétal, déjà peut-être faut-il rappeler ce qu'est l'art pariétal, pariétal comme paroi, c'est bien ça, c'est
oui,
donc l'art de l'homme des cavernes pour faire ça trivialement.
Oui, sauf qu'il n'y a pas que la peinture sur les parois. Dans l'art de nos lointains ancêtres, dont nous avons des traces nombreuses dans la région, c'est aussi la sculpture, c'est aussi un graphisme difficile à déchiffrer. Par contre, les images et les peintures sont plus faciles à lire parce qu'on reconnaît des formes d'êtres vivants, des formes animales, et on s'y attache avec une grande séduction. Alors, donc, c'est cet art des cavernes qui a été très vite lié au sacré. C'est la raison pour laquelle cet art s'est imposé comme un lieu majeur de débat sur l'identité des personnes des auteurs, et sur leur univers mental et leur univers religieux. Alors, pour dire les choses d'une manière assez amusante, on a une découverte importante dans l'histoire de l'art pariétal. C'est ce qui s'est passé à la fin du 19e, en 1879, dans les Cantabres espagnols, un berger qui se promenait avec sa petite fille qui avait 8 ans et rentrait dans une grotte à Altamira, et ils ont découvert ce que personne n'avait vu avant eux dans la région, une grotte ornée, et il y a la parole de cette petite fille qui avait 8 ans qui a crié à son père en regardant le plafond, « Mira, papa, bueis, regarde, papa, des bœufs ». Alors cette découverte a été l'objet de controverses extrêmement importantes parce que c'était la première. Et un certain nombre de gens dans la nomenclatura...
Première découverte, vous voulez dire, en art pariétal, en Europe,
pariétal,
c'est ça ?
En art pariétal, oui, en Europe, oui. Donc ce qui fait que les maîtres de l'art ont dit « Mais tout ça, c'est pas vrai, c'est faux, c'est peinturluré par quelqu'un qui jouait l'intéressant pour se faire connaître, mais c'est pas humain ». Et il y a eu une controverse, est-ce que c'est ancien ? On n'avait pas les méthodes de datation actuelles qui permettent d'avoir des choses très précises. Et on s'est aperçu après que ce qui était dans cette grotte-là se retrouvait un peu partout ailleurs, dans notre espace culturel européen. Ce qui fait qu'on s'est aperçu que ça n'était pas une fiction, donc le Cartaillac... Le maître a fait amende honorable en disant, mais effectivement, il y a un art de ce temps. Parce que l'enjeu, c'était ça. L'enjeu, c'était de se dire, les hommes préhistoriques n'étaient pas des sauvages. Ils avaient de l'esprit, ils avaient une conscience, ils avaient, osons dire le mot, une âme. Et donc, ils représentaient quelque chose qui était proprement spirituel. Alors, plus près de chez nous, il y a Lascaux.
Chauvet.
Il y a Chauvet, plus récemment, qui ont changé de date. Donc, nous avons un art qui a été immédiatement lié au religieux.
Alors, est-ce que vous pouvez juste faire un petit peu de pédagogie sur les datations, en fait ? Là, on parle de l'Homo sapiens, c'est-à-dire c'est à peu près 40 000 ans.
Il n'y a aucun doute, nous sommes dans l'Homo sapiens. Hein, donc, la branche Homo sapiens parmi toutes les hominidés ou homininés que l'on peut tracer, depuis 250 000 ans, on a une espèce, si j'ose dire, une espèce entre guillemets, hein, une population parfaitement définie par l'usage dit par le mot sapiens, donc de la raison. Donc là, on se sent des sapiens.
Et cet art, c'est autour de quand?
Alors,
en fait,
donc cet art, actuellement, hein, on a été longtemps lié à ce qu'on avait découvert à Lascaux. Donc ça, c'était grosso modo, parce que la datation est toujours assez peu précise. Et puis, tout n'est pas... C'est le même lieu. Mais le même lieu a été visité pendant des siècles. Ce qui fait qu'on a des peintures qui ne sont pas exactement du même moment. On peut dire que ça a été fait comme on date la construction de Notre-Dame de Paris. On peut a posé la première pierre, ça s'est achevé tant, on a rajouté ça. Non, on peut pas. Donc on était avec Lascaux, on était à 10, 12 000 ans, mais avec Chauvet, on est remonté à 30 000 ans en arrière, 30, 32 000 ans avant nous. Voilà. Ce qui fait qu'on est devant un art qui a commencé, disons, il y a 30 000 ans, et qui s'épanouit ensuite jusqu'à moins 10 000 ans dans notre calendrier. C'est une fourchette extrêmement large, parce que dans la même grotte, nous avons des choses qui n'ont pas, qui sont pas exactement contemporaines.
Est-ce que vous pouvez expliquer
ce qui est d'étonnant, c'est que cet art est parfaitement unifié. Voilà. Donc ça, c'est un élément culturel.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que quand vous regardez Chauvet, quand vous regardez Lascaux, il y a 20 000 ans de différence, en gros, hein, en 20 000 ans de différence, et finalement, c'est pareil. Alors, on peut voir des nuances, on peut voir des différences, c'est pareil parce que c'est la même culture, la même civilisation, la même population, et c'est un élément extrêmement fascinant, c'est cette stabilité dans une identité culturelle.
C'est vrai que du Picasso pendant 20 000 ans, ça fait quand même une sacrée unité. Hein.
C'est un compliment pour,
voilà,
pour
pardon,
Picasso.
Pardon de la trivialité du propos. Si vous deviez décrire cet art pariétal pour ceux qui n'en sont pas familiers, ça prend différentes formes. Et puis il y avait déjà différentes techniques aussi. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples,
oui,
Jean-Michel,
alors,
Jean-Michel Maldamé, pardon.
Oui, alors... Donc, moi je ne suis pas spécialiste parce que je ne suis pas artiste, je ne fabrique pas d'œuvres d'art dans ce style. Je pense qu'on a justement quelque chose qui est extrêmement contemporain. J'en parlais avec un de mes amis qui est artiste et qui m'a dit, mais finalement, moi artiste, Hein, quand je prends de la couleur, hein, comme on fait la couleur, on écrase des pierres, on les met pour faire de la peinture. Hein, on joint des morceaux de mosaïque. Finalement, on prend le matériau que la nature nous donne et on le réorganise. Donc on pense que les gens de l'époque, ils ont fait pareil. Ils ont écrasé des pierres rouges. Hein, pour faire de la peinture rouge, ils ont écrasé des pierres dorées pour faire un peu d'or, ils ont écrasé des pierres noires pour faire du noir. Donc, d'une certaine manière, l'élément fondamental de la réalisation artistique, c'est tout à fait ce que nous faisons aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on a une chimie très compliquée, mais la chimie, c'est un moyen d'affiner les choses. Mais pendant longtemps, je pense penser à Rembrandt, que j'admire beaucoup, dans son apprentissage de jeune homme, il écrasait les pierres, et ensuite on faisait, avec un solvant, qui était de l'huile ou du jaune d'œuf, encore gras, pour faire la peinture. Bon, la chimie a changé les choses, mais c'est fondamentalement le même acte qui consiste à prendre des éléments que la nature nous donne, de les transformer pour les rendre, je dirais, malléables, et ensuite de s'en servir pour exprimer quelque chose dont il faut bien dire que c'est l'âme humaine qui s'exprime.
Alors justement, on va y venir. On peut dire donc qu'il y a des dessins, des peintures, des gravures, aussi de la sculpture, puisqu'il y a des tailles en relief. Maintenant, sur le sens en fait de cet art, puisque ce qu'on voit donc comme fil rouge, c'est l'homme créateur d'art. C'est donc le thème de cette session. Donc l'art aussi comme étant révélateur du propre de l'homme. J'ai cru comprendre qu'il y avait en fait de multiples hypothèses qui expliquent le pourquoi en fait de cet art. Et qu'aujourd'hui, dans le fond, on ne sait pas trop ce qui motivait nos lointains ancêtres.
Comme vous le dites, c'est des hypothèses. C'est-à-dire que nous avons à interpréter un art dans la mesure où... Alors, c'est la différence entre ce qui est préhistorique et ce qui est historique. C'est que ce qui est historique, on a des textes écrits, une écriture, donc des mots, et donc on peut avoir une interprétation qui est liée à ce que l'artiste dit lui-même de son œuvre. Là, nous n'avons pas d'écriture. Ou alors, s'il y a des signes qui ressemblent à l'écriture, comme des points alignés ou comme des traits tirés d'une manière ou d'une autre, on peut dire qu'il y a peut-être une écriture, mais ça n'est pas lisible pour nous. Ce qui fait que nous sommes devant un art qui ne dit pas lui-même sa propre interprétation. Alors, si vous allez voir un retable et si vous avez écrit dessous Vierge Marie, ben vous direz peut-être que je ne reconnais pas, mais c'est une dévotion mariale, c'est clair. Là, on n'a pas l'équivalent. D'où l'interprétation très ouverte. Alors vous avez, je parlerai de ça dans mon exposé. Vous avez l'interprétation purement esthétique, en disant c'est une œuvre esthétique.
C'est-à-dire c'est de l'art pour l'art.
L'art. Donc un besoin de l'âme humaine, de beauté. Bon, vous avez une autre interprétation de type religieuse. De type religieux, mais le mot religion est employé dans un sens tellement large qu'il y a plusieurs interprétations. Vous avez un premier type d'interprétation qui a été celui qui a dominé au début du XXe siècle en disant c'est un art magique. Alors on trouve ça un peu chez
du chamanisme aussi, j'ai lu ça. Hein,
un art magique, c'est-à-dire que le chasseur, en quelque sorte, représenter son gibier et avec des flèches de manière à, en quelque sorte, on dit une magie. D'autres font une autre interprétation. Alors ça, c'est une truc qui est à la mode actuellement. Ça passe un peu. Qui est le mode purement, alors lié un peu au chamanisme. Alors on imagine des célébrations chamanes à partir de ce qu'on aurait conçu du chamanisme. Alors là, on construit. Voilà. On construit.
Donc le chamanisme, faut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forme de spiritualité animiste.
Qui ont des extases, qui vont visiter l'autre monde. Donc un rapport à un autre monde. Voilà, c'est une thèse dominante actuellement. Vous avez des interprétations plus... je dirais plus laïque, plus profane, l'interprétation structuraliste, c'est-à-dire que c'est une manière de construire l'espace de sa vie tel que on peut le déduire de la non pas de la figure comme telle, mais de la disposition des figures, de l'organisation. En quel cas, on aurait une rationalité mise en œuvre dans l'aménagement des grottes. Pourquoi on a mis ça sur un plafond? Pourquoi on a mis ça sur un mur qu'on voit en face quand on rentre par la porte? Pourquoi, voilà. Donc il y a toute une... Donc vous avez toutes les possibilités. L'abbé Breuil, qui est une grande figure de la découverte
pariétal, oui.
de cet art, était très réservé. Alors il a dit, quand il a vu Lascaux, il a dit « c'est comme la chapelle Sixtine de la préhistoire ». Mais le mot pour lui, chapelle Sixtine, signifiait l'admiration. Il ne voulait pas faire, après il s'est défendu de ça, il dit je ne voulais pas faire une récupération religieuse, je suis devant une humanité qui entre dans une dimension proprement symbolique. Donc l'interprétation est ouverte.
Mais de quoi l'art pariétal est-il le signe dans ces cas-là? On revient au thème de cette session.
Alors de quoi est-il le signe? Je dirais, il est le signe, c'est ma thèse, donc je dis ma thèse clairement, je dis que l'art pariétal doit être pris pour ce qu'il est comme de l'art, c'est-à-dire comme une expression de l'humanité de l'homme dans une dimension transcendante. Et qu'il faut rester très discret et très réservé sur l'interprétation plutôt rationaliste ou plutôt sacralisante. Je dirais, de ce point de vue-là, nous n'avons pas les éléments, mais par contre, ce dont nous sommes sûrs, et ça je crois que c'est évident, c'est que l'être humain est un être qui s'affirme dans une relation à une certaine transcendance. Voilà. Et donc c'est ça dont l'art pariétal est le témoin, et en un sens, ce dont il est, la raison pour laquelle il nous intéresse, parce qu'on se reconnaît dans cette dimension transcendante. Mais de cette transcendance, nous ne pouvons dire plus. Est-ce que ces gens croyaient à l'âme des morts, comme vous voulez l'interprétation chamaniste? Pourquoi pas? Mais on ne sait pas.
Là, en l'occurrence, transcendant, du coup, ça veut dire quoi? C'est plus grand que lui-même, c'est ça? C'est comme ça qu'il faut le comprendre?
C'est-à-dire qu'il y a dans l'esprit humain, parlons de quelque chose qui transcende, enfin qui dépasse l'ordre de l'utile, du pratique, je dirais de la survie. Donc, c'est pas simplement des chasseurs-cueilleurs qui essaient de ritualiser leur chasse, c'est des gens qui, dans la chasse, réalisent quelque chose qui est une aventure qui dépasse de beaucoup l'utilité de se nourrir. Et je pense qu'il y a, alors c'est une interprétation, une interprétation disant que quand il peignait les animaux et qu'il les faisait aussi beaux, c'est parce qu'il les aimait. Et il reconnaissait dans la vie animale quelque chose de beau à laquelle il participait. Voilà. Donc c'est, me semble, c'est ça la transcendance. C'est que quand on voit des reines, quand ils représentent les reines qui sont magnifiques, ou quand ils représentent des ours qui sont l'ennemi.
C'est pas seulement de la viande.
C'est pas simplement de la viande, c'est pas simplement un coup de griffe. C'est la vie. Voilà. Donc c'est une célébration de la vie.
L'homme créateur d'art, c'est donc le thème de cette prochaine session, le 16 et 17 mai prochain. Session donc de l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant, un numéro de téléphone si vous souhaitez vous inscrire ou en savoir davantage, 05 62 26 58 84, 05 62 26 58 84. On fait une première pause et on retrouve nos invités.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'homme créateur d'art, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin en vue d'une prochaine session à l'Institut catholique de Toulouse les 16 et 17 mai prochains sur le thème L'homme créateur d'art, session donc organisée par l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Dans cette deuxième partie, Pascal Casales, maître de conférence à l'Institut catholique de Toulouse et directrice du pôle culturel de ce même institut, Jean-Michel Poirier, prêtre bibliste, maître de conférence à l'IERP, et Jean-Michel Maldamé, prêtre religieux dominicain et théologien, qui nous a dans cette première partie donc parlé de l'art pariétal qu'il développera plus largement à l'occasion de cette session. Dans cette deuxième partie avec vous, Jean-Michel Poirier, on s'est dit donc qu'on allait essayer de développer ce qui fait le fond, si j'ai bien compris, donc de l'intention de cette session, c'est d'essayer de comprendre en fait ce qui fait de l'art une activité proprement humaine. Le titre de votre intervention, c'est de l'artisan à l'artiste. Ne faut-il pas, pour essayer de caractériser cette activité humaine, partir de ce distinguo entre artisan et artiste, qui ont, je crois, la même racine, ou qui ont été en tout cas pendant longtemps, qui n'ont pas été pendant longtemps distingués.
Oui, d'ailleurs, en contrepoint des propos de Jean-Michel Maldamé, hors micro, pendant la pause musicale, on se posait la question finalement, mais qu'est-ce que c'est que l'art ? Et c'est vrai que le terme art, en latin, va qualifier à l'origine une activité humaine ordonnée, tendue vers un certain ordre. Alors que cet ordre soit dicté par les dieux ou imposé par les lois logiques, écrit Alain Raymond dans son dictionnaire étymologique de la langue française. Et donc, voyez, le terme art va désigner une certaine habileté, une manière de faire les choses avec une grande habileté acquise par soit par l'étude, soit par la pratique. Et par exemple, on va parler des arts et métiers. Vous savez, il y a d'ailleurs une école qui s'appelle les arts et métiers. Et donc, dans les métiers, il y a de l'art. Je pense, dans le livre de l'Exode, à un moment donné, on va dire que ceux qui ont travaillé à la confection de la tente de la rencontre, alors soit qui ont construit les éléments en bois, les tissus, les vêtements, ils étaient dotés de sagesse, de la même sagesse que le roi Salomon, par exemple. Donc c'est dire la haute valeur qu'on a longtemps accordée à, effectivement, ceux qui travaillaient la matière et qui la travaillaient avec habileté et qui étaient capables aussi de produire, effectivement, des choses nouvelles, des nouvelles formes, des nouveaux alliages. Mais c'était pas opposé, si vous voulez, à la technique. Au contraire, c'était une manière assez raffinée d'avoir une activité technique.
Alors, ce qui veut dire donc que, on remonte un tout petit peu, donc entre guillemets, aux origines de l'activité artistique, donc artisanat et artiste et activité artistique étaient un peu semblables, et donc on voyait aussi dans les deux quelque chose de transcendant, c'est-à-dire y compris dans le travail artisan, il y avait quelque chose de plus grand.
Effectivement, en tout cas, on le mettait pendant longtemps, on l'a mis au service du transcendant. On l'a mis au service du transcendant. On ne s'est peut-être pas interrogé, justement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'interroger sur l'origine, sur ce qui meut, si je puis dire, l'artiste, hein, qu'à partir du moment où la figure de l'artiste va apparaître. Or, elle apparaît au XVIIe siècle. Elle apparaît au XVIIe siècle au moment où on va détacher, en quelque sorte, les beaux-arts des autres formes d'art plus technique. Je rappellerai que les sept arts au Moyen-Âge, c'était la grammaire, la dialectique, la rhétorique, l'arithmétique, la géométrie, l'histoire et finalement la musique. Il n'y a pas la peinture d'ailleurs dedans. Hein. Mais donc tout cela, c'était... Et à partir... Il va y avoir effectivement à partir du XVIIe siècle l'expression « beaux-arts » qui va se détacher en quelque sorte pour désigner les techniques de la beauté. Dans distinction, donc, on va distinguer d'un côté les arts mécaniques ou techniques, des arts plus libéraux, et libéraux au sens où une liberté plus grande est accordée à celui qui les produit. Et c'est à ce moment-là que on va commencer à détacher la la figure de l'artiste va se former, va se détacher effectivement de celle de l'artisan. Et ce mouvement va aller s'amplifiant au XVIIIe et puis bien sûr au XIXe siècle, où à ce moment-là, on va avoir la figure de l'artiste qui crée, mu par une poussée intérieure, qui n'est pas du tout de l'ordre de l'utile, alors que l'artisan, lui, il est un petit peu le peineux, celui qui travaille sur commande et qui va faire des choses jour après jour. Vous voyez, on a beaucoup évoqué à propos de Notre-Dame de Paris et de sa reconstruction, c'est cette figure de ces artisans, de ces maîtres d'art qui sont aussi une valeur très positive ou qu'on essaie de positive. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les encyclopédistes d'Alembert et Diderot, déjà à l'époque, se dénonçaient la forme de mépris dont pouvaient être victimes les artisans par rapport aux artistes.
Et alors juste, pourquoi au XVIIe siècle se fait cette distinction? Est-ce que vous pouvez
C'est précisément à partir du moment où les beaux-arts font leur apparition. C'est-à-dire que l'art va prendre son autonomie par rapport à son usage, ou en tout cas, ou dit d'une autre façon, si vous voulez, pendant longtemps, on a produit des œuvres d'art un petit peu sur commande. Et alors, ce qui ne voulait pas du tout dire, et j'en discuterai d'ailleurs dans mon intervention dans le cadre de cette session, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y avait pas de liberté intérieure, qu'il n'y avait pas de créativité, bien entendu. Mais pendant très longtemps, pensez aux musiciens, par exemple, la plupart des musiciens, il faut attendre Schubert pour avoir le premier musicien qui ne va pas être au service soit d'un prince, soit d'un archevêque, soit d'un potentat, quel qu'il soit, ou d'une institution. Et donc c'est au XIXe siècle qu'on va voir effectivement se former l'artiste qui vit de son art et pour son art. Alors qu'auparavant, on avait la figure de gens qui créaient, mais sur commande. Par exemple, si on créait de la musique, eh bien, ça allait être pour une certaine utilité. Encore une fois, cette distinction ou cette opposition hein, qui va petit à petit, se durcir au XIXe et au début du XXe siècle, et même pendant une partie du XXe siècle, cette opposition-là, on peut dire qu'il y avait une distinction, mais qu'il n'y avait pas une opposition.
Alors, j'ai lu aussi que vous l'avez dit dans votre propos, hein, mais ce qui peut distinguer aussi ces deux activités, enfin ce qui peut les distinguer de manière parfois excessive, hein, c'est leur finalité. Donc, c'est vrai que dans l'inconscient collectif aujourd'hui, le travail d'artisan a une finalité utile et le travail d'artiste, au contraire, est le signe de la gratuité, donc peut-être plus objet d'émerveillement. Est-ce que c'est une distinction qui est juste?
Alors c'est intéressant de voir que au XVIIe siècle, quelqu'un dit le cordonnier est un artisan, l'horloger est un artiste. Alors, est-ce que le cordonnier pourrait pas être aussi quelque part un artiste? Alors, la question se débat. Alors, est débattue. Tout d'abord, de nombreux artistes continuent à travailler sur des commandes. Nous aurons l'intervention vendredi de Sophie Guérin qui nous parlera d'Henri Guérin, maître verrier. qui a beaucoup travaillé dans la région, qui était de la région. Et il a fait des vitraux donc pour des églises à l'Institut catholique. La chapelle a des vitraux d'Henri Guérin. Mais Henri Guérin, il a par exemple travaillé également pour EDF. Donc là, il avait des on lui donnait, j'imagine, des dimensions. Lorsque Chagall peint le plafond de l'Opéra Garnier, il a des dimensions. Il a un thème. Et il travaille sur commande. Et c'est pas pour autant que ça va contraindre sa liberté. Au contraire, ça va permettre à sa liberté de s'énoncer, si vous voulez. Alors là, je pense que Pascal Casalès serait plus, elle qui est en contact permanent avec des artistes, serait beaucoup plus compétent que moi pour estimer, si vous voulez, la partie d'artiste ou la estimer si vraiment est-ce que de nombreux artistes créent uniquement pour eux-mêmes sans avoir quand même quelque part la visée, par exemple pour un peintre d'être exposé, pour une musique d'être entendu.
Utilité et gratuité, en fait, est-ce que les deux sont pas beaucoup plus mélangés que cette distinction qu'on veut faire?
Oui, mélangé, c'est effectivement mélangé. Un artiste est artiste pleinement accompli à partir du moment où il est vu, où il est entendu, pour le cas des musiciens. Donc forcément, lorsque l'artiste fait une toile, la consécration, c'est qu'elle soit vue, parce que c'est comme ça qu'il est reconnu.
Mais elle peut être vue sans avoir une utilité, on va dire, immédiate.
Oui, mais pour autant, la gratuité totale de l'acte est relative, si on veut aller jusqu'au bout. Mais effectivement, parce que celui qui vous dit que vous êtes artiste, c'est pas vous, c'est l'autre. C'est-à-dire celui qui vient voir, celui qui reconnaît, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a cette dimension-là. Mais sur cette question-là, entre artisan et artiste, c'est vraiment très complexe. Les artistes sont aussi des artisans sur beaucoup de choses. Ils vont, par exemple, je vois les artistes, par rapport à leur toile, avoir une attitude très spécifique, la construire, je dis physiquement, c'est-à-dire ils vont faire venir des toiles, avoir un châssis ou le construire lui-même, enduire leur toile, ça c'est déjà de l'artisanat, mais c'est pour arriver à leur art, c'est-à-dire que moi je sépare pas vraiment ça. Alors dans le cadre aujourd'hui où on aime bien sectoriser les choses, c'est extrêmement accentué, mais les choses sont pas si faciles que ça, et Jean-Michel parlait d'Henri Guérin, c'est quelqu'un qui était du début jusqu'à la fin de la chaîne de son art, il était toujours là, autant dans la partie très pratique, très construite, que dans la partie créative.
Donc, Jean-Michel Maldamé, vous voulez intervenir.
Oui, cette distinction entre l'art et l'artisan se retourne, parce qu'on a, au XXe siècle et encore aujourd'hui, parlé du design. Le design, c'est le fait que quand on était en fabrication industrielle, on se rendait bien compte qu'il y avait, en respectant les règles imposées par la nature, donc exprimées mathématiquement, on trouvait des formes pures. Bon, avant les avions qu'on fait, les calculs mathématiques sont extrêmement compliqués, mais les gens qui partent donc de ces calculs très compliqués, donc c'est pas l'expérience immédiate, finissent par trouver la forme la plus adaptée à la performance spatiale de ce qu'ils fabriquent, et on s'aperçoit après que c'est une forme pure, et donc dans la notion de forme pure mathématique se trouve à la fois ce qui est le plus pratique, le plus efficace, et en même temps un sens esthétique. Donc l'artisan ancien fait une œuvre d'art, mais l'ingénieur d'aujourd'hui qui part sur des éléments purement théoriques, mathématiques inaccessibles au commun des mortels, finit par retrouver la simplicité de ce qui lui plaît pour des raisons très profondes de sa psychologie.
Alors Jean-Michel Maldamé, puisque l'objet de cette deuxième partie, c'est d'essayer de se demander ensemble en fait ce qui fait de l'art une activité proprement humaine, comment répondre à cette question? De prime abord, on se dirait davantage que c'est la gratuité est le signe de quelque chose de transcendant, justement, plus qu'une fin utile. Est-ce là une mauvaise vision de la
virelicieuse? Non, vous m'interrogez.
Oui, c'est vous.
Non, parce que vous avez dit Jean-Michel.
À Poirier. Bah oui, mais moi, je m'y perds avec tous les Jean-Michel. Hein. Heureusement qu'on n'a pas Jean-Michel Casalès avec deux LE.
Non, tout à l'heure, pendant que Jean-Michel Maldamé parlait de l'avion, etc., je pensais à l'expression « c'est du grand art ». C'est du grand art. Il y a effectivement... alors, si vous voulez, il y a à la fois une manière, on pourra dire par exemple d'un homme politique que c'est un artiste. Je rappelle que lorsque Mitterrand est mort...
C'est plutôt péjoratif en général, non, quand on dit ça dans la politique.
Lorsque Mitterrand est mort, je crois que c'est Libération qui a titré « Bravo, enfin, au revoir l'artiste » ou quelque chose comme ça.
La politique
est
un art.
Oui, la politique est un art. C'est-à-dire quelqu'un qui dans son domaine propre de technique, a une manière de le faire, voyez, qui suscite l'admiration. Je crois que ce qui est important, effectivement, c'est à quelle partie de l'homme s'adresse l'art. Et c'est vrai que l'art ne vise pas uniquement à susciter, comment dire, une forme d'admiration, mais, mais ça vient toucher la sensibilité. Ça vient toucher en l'homme quelque chose qui peut faire appel à la raison, mais qui est au-delà de la raison. Et finalement, on en revient peut-être à l'ouverture au transcendantal, c'est-à-dire l'ouverture à quelque chose qui n'est pas uniquement de l'ordre de la raison, de la rationalité. Alors c'est peut-être, pour certains vont considérer que c'est uniquement de la sensibilité, et d'autres vont penser que c'est une ouverture à la dimension symbolique qui est constitutive de l'humanité. Et de cela, d'ailleurs, je pense que Edouard Kovac, qui est philosophe, et qui ferait l'intervention jeudi après-midi, là, sur homo technicus ou homo symbolicus. Et donc, ça s'adresse effectivement plutôt à la dimension symbolique de l'être humain.
Y compris, donc, quand on fait de l'artisanat.
Y compris lorsqu'on fait de l'artisanat, bien entendu. Un artisan peut être un artiste, et l'être à titre plein.
Voilà, donc il peut y avoir du transcendant dans, on va dire, dans la vie matérielle,
compris dans le fait de fabriquer une
chose. Dans les choses quotidiennes. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler entre autres donc de Camille Claudel, puisque vous interviendrez en parlant de cette sculptrice Pascal Casalès. Et puis vous nous direz un tout petit mot aussi de allez, comment vous prononcez ça pour
la Truscoule.
La Truscoule. Dites-nous deux mots de teasing pour que les auditeurs aient envie de rester après la pause musicale.
C'est un groupement de jeunes qui dans les années 90 à Toulouse se sont réunis, faisaient du graphe et sont devenus ensuite des gens importants autant dans la région qu'à l'international du point de vue du graphe, et la ville de Toulouse d'ailleurs.
Voilà, donc
on a pas mal honoré.
On va parler de Camille Claudel et du graphe pour cette session. Donc l'homme créateur d'art, c'est le 16 et 17 mai prochain. Et même chose qu'avant la première pause musicale pour ceux qui par hasard partiraient maintenant et qui voudraient plus d'informations ou s'inscrire. Un numéro de téléphone 05 62 26 58 84. 05 62 26 58 84.
Radio Présence à Montauban 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'homme créateur d'art, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindront en cours de route autour du plateau. Pascal Cazalès, qui est maître de conférence à l'Institut catholique de Toulouse et directrice de son pôle culturel, et deux Jean-Michel, donc Jean-Michel Poirier, prêtre bibliste et maître de conférence à l'IERP, et Jean-Michel Maldamé, prêtre religieux dominicain et théologien. Alors vous allez donc à l'occasion de cette session, Pascal Cazalès, intervenir en je redis que... Il va y avoir du monde, on peut pas citer tout le monde, mais il y aura pas que des, on va dire, des théoriciens de l'art. Il y aura aussi des praticiens, il y aura des artistes qui viendront par votre biais pour aussi parler de leur travail. Vous allez parler donc de certains artistes ou d'écoles d'artistes. Commençons par Camille Claudel, qui est probablement plus connue de nos auditeurs. Camille Claudel, c'est donc cette sculptrice de génie de la fin du 19e siècle, qui était donc la sœur du fameux écrivain et qui fut la maîtresse et la muse du sculpteur Auguste Rodin. Si vous deviez commencer par nous la présenter, si on devait faire une rapide biographie pour ceux qui la connaissent mal, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Pascal Cazalès?
D'abord, je pense qu'il faut la présenter en dehors de sa relation avec Rodin, parce qu'on la réduit régulièrement à cette relation qui, au fond, ne nous regarde pas, je dirais, profondément. C'est la relation qu'elle a avec Rodin, c'est la relation d'abord de deux artistes, de deux âmes absolument géniales du point de vue créatif et qui se sont rencontrées d'abord pour ces très très bonnes raisons-là. Donc voilà, ça c'était un petit avant-propos. Alors autrement, c'est Camille Claudel n'est pas la fin du 19e siècle, mais en 1864, elle appartient donc à la famille Claudel, que l'on connaît par ailleurs, en dehors du travail de Camille. Et c'est une personnalité très forte dès le départ, c'est-à-dire qu'elle est, même par rapport à son frère et sa sœur, elle aura donc un frère et une sœur. Il y a aussi un enfant mort très peu de temps après sa naissance, qui aurait été le drame de sa mère, qui était présent dans cette famille. Il n'était pas présent physiquement, mais il l'était ailleurs. Donc Camille Claudel apparaît dès le départ avec une personnalité très forte, un goût artistique très prononcé dès l'âge de 12 ans. Et donc, elle oblige les uns et les autres à poser, à prendre la pose pour pouvoir faire ses sculptures, à aller chercher de la terre. Enfin, elle implique tout le monde et avec beaucoup d'autorité.
Voilà, on peut dire aussi que sa vocation artistique n'a pas été facile à imposer en famille. Il ne devait pas être simple à cette époque pour une femme que de dire qu'on voulait devenir artiste ou...
Alors, ils étaient tous plus ou moins artistes. Camille Claudel avait décidé que Paul serait écrivain, son autre sœur musicienne et elle artiste sculpteur. Donc, il y avait une répartition, je pense, jusqu'à l'adolescence, qui n'était pas trop problématique. Son père même était assez sous le charme de cette personnalité. C'est après que les choses ont été plus compliquées, parce que lorsque Camille s'est affirmée en tant que Camille Claudel, en tant qu'artiste sculpteur, il faut savoir qu'à cette époque-là, pour les femmes, c'était quand même très compliqué. La sculpture, c'était le domaine des hommes. L'art, c'était pas le domaine des hommes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes peintres, mais la sculpture avait quelque chose de viril et de délicat pour les femmes. Donc, elle prend en charge, parce que son art c'est celui-là, cette difficulté-là également, donc à la fin du 19e siècle, à une époque où les femmes ne peuvent pas aller n'importe où pour apprendre à travailler.
Alors si vous deviez présenter son travail dans ces cas-là, sans trop parler d'Auguste Rodin, puisque vous avez raison, c'est vrai qu'on imagine toujours cette femme en fait avec comme deux ombres tutélaires que sont son frère et Auguste Rodin. D'ailleurs, un certain nombre de ses œuvres sont exposées dans le musée Rodin, donc évidemment, ça prête à confusion. Comment vous présenteriez son travail?
Alors, juste pour dire qu'actuellement, donc, il y a le musée Auguste Rodin qui présente les œuvres, mais il y a aussi celui de Camille Claudel.
Qui est à Paris aussi?
Non, qui est à Nogent-sur-Seine. Donc, on peut le voir. Et là, c'est un très bel espace où il y a toutes ces œuvres, plus d'autres œuvres de contemporains. Alors, le travail de Camille, donc on a d'elle des témoignages assez importants de ce qu'elle était capable de faire dès l'âge de 14-15 ans, comme une tête, par exemple, un buste de Bismarck. Je veux dire, déjà trouver à cet âge-là l'idée d'aller représenter cet homme-là. Et quand on le voit, on s'aperçoit qu'elle a tout à fait saisi la puissance complexe de cet homme, rien que par le regard, la façon dont elle a creusé les yeux, dont elle a présenté tout est dans le regard. Et chez Camille Claudel, Claudel, il y a véritablement cette capacité à retraduire, et à traduire plutôt, les émotions les plus importantes sur les corps et donc sur ces sculptures. Et on trouvera tout au long de sa vie, quand je dis qu'effectivement la rencontre avec Rodin est importante parce que c'est la rencontre de deux créateurs, ils se sont apportés mutuellement des choses, comme quand deux créateurs se rencontrent, ils ne peuvent pas s'éviter. Il y a eu une relation entre eux, mais ça, je dirais, c'est autre chose. Le Camille a appris de lui, mais lui a beaucoup appris d'elle également. Et c'est ça qui souvent n'est pas dit. De ça naîtra notamment de cette époque-là une sculpture qui est importante, qui s'appelle Shakuntala, qui est une représentation de deux corps d'une jeune femme et d'un jeune homme qui est à genoux devant cette femme, qui est d'une beauté absolument incroyable et d'une très, très belle intention. C'est-à-dire que là, on est dans véritablement ce qui est très fort chez Camille, c'est cette capacité à inverser les choses.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a une représentation d'un homme et d'une femme. La représentation est... La femme est au-dessus. La joue qui s'approche de l'homme. Et l'homme est agenouillé devant elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme, ni de femme, ni de premier, ni de second. Il y a simplement un couple hein, qui se reconnaît dans l'altérité. Et ça, c'est assez extraordinaire. Voilà. Ça fait partie du génie de Camille parmi les œuvres qu'elle a pu faire. À côté de ça, on remarquera la période après. Donc, elle avait toute la période relativement brève où elle est avec Rodin, où elle travaille aussi aux œuvres de Rodin. Hein, la porte de l'enfer, etc. C'est normal, hein, parce que ces artistes-là avaient de telles commandes qu'il fallait bien pouvoir honorer la plupart des commandes et que d'autres personnes y travaillent. Mais bien qu'elle ait eu ce travail-là, elle a toujours travaillé pour elle-même aussi, continuant ses sculptures, ses œuvres, son chemin personnel, ce qui prouve bien qu'elle ne dépendait pas de Rodin pour exister.
Alors moi, j'ai lu, entre autres, j'ai appris en préparant cette émission qu'elle taillait directement la pierre, contrairement à Rodin, et que c'était aussi le signe d'un talent particulier, non, c'est
alors,
ça
elle taillait la pierre, ça c'est... Alors, il y a ceux qui ont été des œuvres coulées, qui n'ont rien à voir, et puis après, il y a des œuvres, effectivement, où elle a taillé la pierre, parce qu'il y a toute une période, après cette de rupture avec Rodin, où elle va se mettre à faire des choses qui sont très intimistes, des blocs, notamment en onyx ou en marbre, où elle va faire des groupes. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ces groupes, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la vague, une énorme vague, le total doit faire à peu près 50 cm, une énorme vague en marbre. Sous cette vague, un groupe de quatre femmes et qui sont de dos par rapport au public, par rapport aux regardants que nous sommes. Et vous rentrez en fait dans l'intimité. Ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que vous ne voyez pas vraiment leur visage. Mais l'organisation de la scène et la sensibilité qu'elle a mise dans sa sculpture fait que effectivement on a l'impression d'être et même de ressentir les éclaboussures de l'eau.
Alors on s'est dit qu'on allait parler d'un sujet peut-être pour finir cette émission qui est la fin de sa vie en fait période longue puisque cette femme donc a eu des troubles psychiques importants un moment dans sa vie et donc elle a été internée en 1913, elle est restée donc jusqu'en 1943 donc pendant 30 ans dans un asile, c'est comme ça en tout cas qu'on appelait ces lieux autrefois et on se disait que c'est pareil hein, je pars un peu de l'idée qu'on se fait chacun des artistes mais qu'il y a toujours une sorte de fascination à l'égard des artistes et qu'en même temps il y a toujours comme une forme d'inquiétude comme s'ils touchaient à un domaine qui pouvait faire peur qui était justement au-delà des hommes et que Camille Claudel ferait partie de ces artistes où on se dit qu'à un moment il y a toujours comme une frontière entre la déraison et notre monde. Alors qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Pascal Cazalès?
D'abord je voudrais un peu rectifier ce qui a été dit sur Camille Claudel parce qu'elle est restée 30 ans enfermée de façon abusive. On peut dire que par certains aspects c'était une séquestration puisque les médecins ont demandé par deux fois à la famille dans les années qui suivaient son internement qu'elle revienne à la maison et sa mère s'y est opposée. Il y avait une relation entre Camille Claudel et sa mère qui était très très conflictuelle et problématique puisque sa mère avait demandé un internement extrêmement sévère. Camille Claudel n'avait pas le droit de recevoir de visite ni de courrier. Lorsque sa mère est morte en 1929, la situation est restée inchangée. Paul Claudel n'a pas modifié cette chose-là et elle est morte en 1943 de faim, puisqu'à cette époque-là, c'était la guerre et beaucoup, 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 beaucoup de malades sont morts de faim. Elle est morte de faim et dans l'anonymat total, puisque son corps n'a pas été réclamé, donc elle a été enterrée dans la fosse commune. Voilà. Donc c'est dramatique, elle n'a plus du tout toucher aucun instrument de sculpture à partir du moment où elle a été enfermée. Elle a toujours dit qu'elle n'était pas folle, elle a toujours dit qu'elle voulait revenir. Donc c'est quelque chose qui est assez dramatique, parce qu'on aimerait bien savoir ce que cette femme aurait fait quand même.
On pouvait être, entre guillemets, enfermée contre son gré ?
Ben oui, la preuve.
Parce que jugée irresponsable ?
Parce ou... qu'au début, elle a fait des crises que l'on pouvait trouver. Elle avait une obsession par rapport à Rodin, elle avait peur qu'il lui prenne son art, parce que la relation avec, à la fin, s'était terminée dramatiquement entre ces deux amants. Rodin n'avait pas été jusqu'au bout des promesses. Camille était déçue et extrêmement, extrêmement déçue. Donc, elle avait une sorte d'obsession. Aujourd'hui, elle ne serait pas enfermée. Elle avait besoin peut-être d'accompagnement psychique, ça, certainement. L'enfermement, c'est autre chose. Mais quant à la question que vous posez, moi, je ne crois pas que les artistes soient différents de ce que nous sommes. Je pense qu'ils touchent. Alors là, ça revient sur la question dont Jean-Michel Madalmé, qu'il évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire, et qu'on a évoqué tous ensemble avec Jean-Michel Poirier, c'est qu'est-ce que l'art ? C'est-à-dire que à partir du moment où vous faites quelque chose, cette activité que vous êtes en train de créer, vous rentrez dans un quelque chose qui vous dépasse. Et ça, c'est unanime. Moi, tous les artistes que j'ai reçus me le disent. Alors, ce quelque chose n'est pas forcément nommé. Parfois, il y en a qui se réclament véritablement d'une inspiration, pas d'une inspiration, mais d'un lien spirituel et transcendantal très précis. D'autres non. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est dans le fait de créer est quelque chose, je dirais, un peu de sidérant à chaque fois pour les artistes. Sidérant, d'ailleurs, beaucoup vous disent « j'ai fait ça et ça m'échappe ». Mais c'est pareil en écriture, vous écrivez un texte, c'est même pas de la satisfaction, vous êtes étonné de l'avoir écrit, de l'avoir produit. C'est toute la magie de la création, je pense. Alors c'est extrêmement positif, mais ça peut être extrêmement déstabilisant.
Et ben voilà, si vous voulez en tout cas en savoir plus, eh bien vous n'avez plus qu'à courir à cette session. En tout cas, merci pour la mise en bouche aujourd'hui. L'homme créateur d'art, c'est donc le 16 et 17 mai prochain, je rappelle une dernière fois, à l'Institut catholique de Toulouse, session organisée par l'IERP. Et je rappelle une dernière fois aussi ce numéro de téléphone, 05 62 26 58 84, 05 62 26 58 84. Merci beaucoup à mes invités
merci,
de ce matin.
Au revoir.
Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.